Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
I am not a believer in climate change.
C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit là.
Bonjour. Ici Esther au micro, pour vous accueillir avec enthousiasme dans cette nouvelle saison d'Activiste. Avec Clémence, on est très heureuse de poursuivre l'aventure et de continuer à vous faire découvrir des personnes qui s'engagent et qui nous inspirent. On espère d'ailleurs que si vous-même vous vous engagez, vous nous écrirez pour nous parler de vos projets. La première invitée de cette saison s'appelle Marie Albert. Elle est journaliste, aventurière, féministe. Elle vient de terminer la première étape de son Survivor Tour, un tour de France à pied. Attention, trigger warning, il sera question dans cet épisode de violences sexuelles, exhibitionnisme, harcèlement sexuel et viol. Je précise en description les passages à sauter si besoin. Mais il sera aussi question de choses plus légères, de voyages, de journalisme et du bonheur d'enregistrer en pleine nature avec les aléas que ça comporte. C'est parti. Bonjour Marie.
Bonjour Esther.
Est-ce que tu peux nous expliquer où on est là ?
Alors, j'ai aucune idée. Je pense qu'on est toujours sur la commune de Saint-Quay-Portrieux, dans les Côtes d'Armor, en Bretagne. Et on se trouve sur le GR34, donc le sentier de randonnée qui longe le littoral. Et on est en dessous d'un cèdre magnifique, au bord de la mer. J'espère que vous entendez les vagues, mais je ne pense pas. Et c'est totalement paisible, il n'y a personne. On est sur un banc dans l'herbe.
Effectivement, c'est très très beau. Pourquoi je t'ai rejoint ici ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais, toi, sur le GR34 ?
Alors, je fais un tour de France à pied contre les violences sexistes qui s'appelle le Survivor Tour. Donc, tour de France d'une survivante. Et le but, c'est de montrer qu'en tant que femme seule, je peux marcher, faire le tour de France à pied, et dormir sous ma tente dans les bois et ne pas être violée ni assassinée, contrairement à ce que tout le monde pense, et de dénoncer plus largement les violences sexistes et sexuelles.
Et tu fais ça pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a motivée au départ à te dire « Ok, ouais, je vais faire ça ». Parce que tout le monde ne se lève pas un matin en se disant « Ouais, moi, je vais faire un tour de France à pied, toute seule, pour parler des violences sexistes et sexuelles ». Donc, qu'est-ce qui t'a amenée là ?
Ben, en fait, je suis devenue féministe, comme beaucoup de meufs aujourd'hui. Et j'ai voulu arrêter de prendre l'avion parce que je voyageais beaucoup, j'avais cette chance-là. Et pour des raisons écolo, j'ai voulu arrêter de prendre l'avion. Donc en 2016, je me suis lancée sur le chemin de Compostelle parce que je me suis dit « Ouais, je vais marcher. » Puis j'ai envie de marcher seule et le chemin de Compostelle, c'est soi-disant sûr. Et puis du coup, j'ai marché sur le chemin de Compostelle. Et à la fin, quand je l'ai fini l'année dernière, en 2019, c'était l'année où on parlait beaucoup des féminicides, donc des femmes tuées par leur conjoint ou leur ex. Et je me suis dit que j'allais dédier la dernière partie de ma marche aux victimes de féminicides, parce que la marche, ça a un sens politique depuis toujours, que ce soit par les manifs, par les figures politiques qui ont marché. Il y a plein de gens aussi qui marchent, tu sais, pour une cause, contre une maladie ou quoi. Donc moi, je me suis dit, ah bah les 700 derniers kilomètres entre Bilbao et Saint-Jacques-de-Compostelle, je vais les dédier aux victimes de féminicides et je vais en parler sur les réseaux sociaux, raconter une histoire de femme par jour. Donc c'était juste symbolique et en fait, entre guillemets, ça a bien mobilisé. Les gens ont trouvé ça intéressant. Du coup, je me suis dit que j'allais faire le tour de France à pied après parce que bah, l'Espagne, c'est bien, mais j'avais envie de découvrir plus la France. Et du coup, j'ai voulu faire le tour de France à pied. Et puis après, j'ai réfléchi à quelle cause, et toujours féministe. Et voilà, on est arrivé aux violences sexistes dans leur ensemble pour ne pas se focaliser que sur les meufs qui sont mortes, mais plus sur les survivantes, sur celles qui ont survécu. C'est pour ça que ça s'appelle Survivor Tour.
Et est-ce que tu considères, là, en gros, ça fait 2 mois et demi que tu marches, Donc, il te reste, je sais pas, 2 semaines avant d'arriver à la fin de ta première étape, en gros, que tu t'étais fixé. Tu es parti de Dunkerque, tu vas t'arrêter à Lannion cette année, c'est ça?
Ouais.
Et là, comme tu approches de la fin, est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi à atteindre les objectifs que tu t'étais un peu fixé?
Ouais, complètement. C'est très, 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 très dur, surtout sur la fin. Mais après, d'un point de vue féministe, je suis totalement contente parce qu'il y a eu beaucoup d'écho à ma marche dans beaucoup de médias, dont le podcast qui s'appelle Activiste. Et puis surtout, j'ai rencontré énormément de personnes à qui j'ai pu en parler. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux pour raconter leur histoire de violence. Et surtout, moi, pendant ma marche, mon but, c'était justement de ne pas être violée ni assassinée quand je dors dans les bois la nuit. Et ça ne s'est pas passé. Et sur 3 mois, j'ai été agressée sexuellement qu'une seule fois, ce qui peut sembler déjà beaucoup pour un mec cis et hétéro. Mais pour une meuf, être agressée qu'une seule fois en 3 mois, je parle de n'importe quelle agression, j'ai même pas été harcelée, enfin, il y a eu qu'une seule agression. Et pour moi, c'est pas beaucoup, donc objectif atteint, ça prouve bien que quand on marche seul dans la nature, bah, en fait, si on est seul, il n'y a pas d'agresseur, donc il y a moins de chances d'être agressée.
Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me dire, c'est quand même hyper violent de se dire ce n'est arrivé qu'une fois, tu vois. Parce que, mine de rien, ça veut dire que c'est quand même arrivé. Comment tu as réagi quand c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est... Enfin, est-ce que tu peux raconter ce qui s'est passé ou est-ce que c'est chiant?
Donc, c'est hyper important à raconter parce que ça existe, ça arrive à beaucoup de randonneuses. Ça s'appelle un exhibitionniste. Donc, c'est un mec qui se sort son pénis pour se masturber... devant moi, en l'occurrence. J'étais à Honfleur, en Normandie, et je venais de passer 3 jours au camping pour me reposer parce que j'étais morte. Et le jour où je suis repartie, j'étais trop contente. Ça faisait 1 mois que je marchais, aucune agression. Et j'arrive sur une route de campagne avec quand même pas mal de passages et je voyais un fourgon blanc arrêté sur le bas-côté. Donc j'étais en train de me parler toute seule à moi-même, en train de parler de grandes théories féministes. Donc je me dis, peut-être qu'il y a quelqu'un dans la voiture, donc je vais arrêter de me parler toute seule à moi-même à voix haute. Et je passe et voilà, la vitre était ouverte, donc j'étais juste en train de marcher et je me retourne pour voir s'il y a quelqu'un dans la voiture par pure curiosité. Et là, je vois un mec blanc, assez jeune, chauve, avec des lunettes, qui se masturbait, donc qui avait vraiment le pénis à l'air dans sa voiture et qui me regardait. Donc soit dans son rétroviseur, puis après il m'a regardé dans les yeux. Et donc, c'était vraiment dirigé vers moi. C'était pas par hasard, je suis tombée au mauvais moment, au mauvais endroit. C'était vraiment un exhibitionniste. Et après, j'étais sidérée parce que je m'attendais pas du tout. Ça m'est déjà arrivé sur le chemin de Compostelle. Enfin, c'est un truc très récurrent pour les randonneuses. Mais du coup, j'ai continué à marcher. Et puis voilà, je voulais m'éloigner de cette personne. Et puis, quand je me suis éloignée, j'ai appelé ma meilleure amie. Puis elle m'a dit, appelle les flics. Et puis quand j'ai appelé les flics, je me suis retournée. La voiture était déjà partie. J'avais pas pris sa plaque d'immatriculation. Et en soi, je pense pas que les flics auraient fait grand-chose. Donc, je n'ai rien fait à part fuir. Mais fuir, en soi, c'est déjà se défendre. Donc voilà, j'ai survécu.
Très bien.
Mais c'est quand même très violent.
Mais j'imagine, oui, que ça laisse quand même des traces. Et... ça n'a pas généré des appréhensions pour la suite de ta marche ou, enfin, comment tu as géré ce sentiment de peur? Toi, c'est un truc que tu ne ressens pas de base, la peur quand tu es toute seule justement à randonner ou à camper dans les bois, ou est-ce que tu as dû apprendre à l'apprivoiser?
Si, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur au début, surtout vu que tout le monde projette cette même peur sur moi quand je raconte ce que je vais faire. Et par rapport à ce traumatisme-là, oui, c'est sûr, pendant les jours qu'on suivit, dès que je croisais un mec seul, j'étais pas bien. Mais ça s'est passé fin juillet, là, on est mi-septembre, donc je suis passée à autre chose. J'ai fait un podcast, dans mon podcast qui s'appelle Marie sans filtre, j'ai fait un épisode pour raconter ça, j'en ai parlé. Voilà, je suis dans l'extériorisation et en soi, il m'est arrivé tellement de traumas, de violences sexuelles dans ma vie que... je suis assez résiliente, mais après, par rapport à la peur globale de dormir dans la forêt, ça, pareil, vu qu'il ne m'est rien arrivé dans la forêt, vraiment, surtout la nuit, il ne m'est rien arrivé, c'est un truc, plus je le fais, moins j'ai peur, quoi. C'est une habitude.
Et est-ce que tu as eu des retours de filles qui te disaient que ça les avait inspirées à faire le même genre de choses, à se lancer à voyager seules alors qu'elles n'avaient pas forcément osé avant?
Ouais, totalement. Il y a surtout récemment, parce que il fallait quand même que les personnes me suivent plusieurs semaines, plusieurs mois pour peut-être pour être vraiment inspirée. Mais là, récemment, j'ai eu énormément de meufs qui m'ont raconté « Ah, je suis allée marcher là, j'ai grave pensé à toi. Là, j'ai, pour la première fois, j'ai bivouaqué dans la nature toute seule. Je regarde ce que tu fais, ça me donne trop envie de faire le tour. » Là, il y a une fille qui habite à Saint-Martin, hein, dans les Caraïbes. Elle m'a dit « Ah, je vais peut-être faire le tour de l'île de Saint-Martin toute seule. » Enfin, truc de fou, c'est trop bien.
Et qu'est-ce que tu dirais qui seraient les meilleurs moments que tu as passés sur, sur tes 2 mois et demi là, pour l'instant? C'est quoi tes meilleurs souvenirs de randonnée?
Bah, c'est vrai que quand je réponds à cette question, c'est un peu gênant parce que les gens ne savent pas trop de quoi je parle. C'est de la géographie en fait. J'ai été en Normandie. Bon, pour les gens qui connaissent la Normandie, j'étais à la pointe du Cotentin, Cap de la Hague. Ça s'appelle le Nez de Jobourg, l'endroit précisément. C'est très touristique, mais voilà. Si tu n'y es jamais allé, c'est vrai que c'est difficile à imaginer, mais c'est des fougères, c'est des falaises, enfin, une sorte de. La terre tombe dans la mer avec recouverte de fougères et moi je suis sur le sentier, il n'y a aucune maison, il n'y a rien, je suis seule au monde, il y a le coucher du soleil et je suis toute seule sur le chemin et je me sens hyper puissante et hyper libre et ça c'est pendant toute une journée. Donc c'est vraiment genre 20 km de marche comme ça dans la nature sauvage. Pareil, j'ai bien aimé aussi la côte d'Opale entre Calais et Boulogne-sur-Mer, c'est plutôt des falaises très hautes pour le coup avec la roche blanche. Et moi j'aime bien quand c'est sauvage et qu'il n'y a personne. Voilà.
Cette idée de puissance que tu mentionnais, c'est intéressant, je trouve. À quoi tu l'associes, toi? Enfin, comment tu définirais cette puissance-là que ça t'a fait ressentir?
Bah, la puissance, c'est une émotion, je trouve, super intéressante en tant que féministe. L'autre jour, j'y pensais. En fait, je ne parle pas forcément de la puissance du féminin d'un point de vue caricatural. Genre, je suis une femme, donc je suis puissante. C'est plutôt de se réapproprier sa liberté et se réapproprier ma force, quoi. Et j'ai fait un tour du globe en cargo l'année dernière et j'ai écrit un livre pendant ce voyage qui s'appelle « La puissance », justement. Parce que j'étais dans un moment de ma vie où j'étais trop mal. Et j'étais trop contente de me réapproprier cette force, de retrouver ma liberté, de voyager, de dépendre de personne, d'être seule. Il y a un côté, dépendre de personne. Mais après, on dépend toujours un peu des gens, mais d'être indépendante.
Je trouve ça assez fascinant, la manière que tu as de voyager et de partir comme ça, toute seule, à l'aventure. Et d'ailleurs, je crois que c'est un mot que tu t'appropries aussi, aventurière, c'est comme ça que tu te définis.
Ouais.
À quel moment tu as décidé que tu allais commencer à... Enfin, que c'était toi en fait, que c'était ton âme d'aventurière, que tu avais une âme d'aventurière?
Je sais pas, il y a 10 jours. Non, parce qu'avant...
Parce que pourtant, tu viens pas de commencer à faire des aventures. Enfin,
toutes les meufs qui écoutent cet épisode, qui voyagent, elles ne vont pas forcément se dire « je suis aventurière ». C'est hyper dur de se sentir la légitimité de se dire ça. Donc moi, en fait, au début, je me disais que j'étais journaliste. Après, je me suis dit que j'étais voyageuse et journaliste. Et là, j'ai mis sur mes réseaux sociaux maintenant que je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Donc c'est assez long. Mais en fait, j'ai lu les livres d'une fille, d'une femme qui est suissesse, qui s'appelle Sarah Marquis, qui est aventurière et qui s'est définie comme aventurière. Et en fait, elle marche à travers le monde, elle fait des longues marches comme moi, l'Australie, la Russie, la Chine, l'Amérique du Sud, etc. Et moi, j'ai lu ça, je me suis dit, ah, en fait, elle dort sous sa tente, elle voyage pendant des mois, c'est possible. Et du coup, c'est elle qui m'a inspirée. Et elle n'a pas de but féministe, c'est juste elle marche et elle est aventurière. Donc je me disais, en fait, si je marche dans la nature, que je dors sous ma tente pendant 3 mois et que je fais le tour de France à pied, bon, c'est un peu de l'aventure, donc je suis un peu aventurière. Et puis il y en a marre de tous ces mecs blancs, cis et hétéros qui sont aventuriers. Et franchement, j'ai lu tous les livres de Sylvain Tesson, mais on n'en peut plus, quoi. Des mecs qui sont aventuriers et qui sont juste ultra privilégiés et qui font rien d'autre que voyager, d'écrire des livres. Bah ok, bah moi je veux faire pareil, pourquoi j'aurais pas le droit, quoi. Donc je pense que se dire aventurière, bah ça donne plus de légitimité et puis les gens vont me prendre peut-être plus au sérieux aussi, quoi.
Ah oui, c'est presque plus pour le regard que les autres portent sur toi que ta propre vision de toi-même, tu veux dire ?
Non, les deux, ouais, les deux.
Ok. J'ai envie de revenir un peu aux sources de ton engagement, parce que là, du coup, on vient de parler donc, du tour que tu es en train de faire, qui est motivé par tes convictions féministes, etc. Mais il remonte à quand ton éveil féministe ? À quoi ?
Bah, je sais pas trop répondre à cette question. Faudrait demander à ma famille, c'est peut-être quand j'étais au lycée. Après, j'ai intégré Sciences Po Lille et je suis allée faire une année à l'étranger en Russie. Et j'étais dans une minuscule chambre de dortoir avec une Allemande qui avait 5 ans de plus que moi. Non. Ouais, qui était plus âgée que moi et elle était très féministe. Donc elle m'a vraiment éveillée à la théorie féministe, mais je pense que je l'étais déjà avant. Et en soi, c'était une personne super toxique, donc j'aime pas trop parler d'elle comme mon inspiration, mais c'est un peu vrai qu'il faut avoir des modèles parfois. Et après, je suis surtout devenue de plus en plus vénère, radicale, avec les agressions que j'ai subies, les violences sexuelles. C'est ça qui m'a rendue vraiment féministe, quoi, tout ce que j'ai subi alors que j'ai à peine 26 ans. Et que je suis ultra privilégiée, donc j'imagine même pas ce que subissent les gens moins privilégiés, enfin...
Ça, c'est un truc que je remarque souvent dans les témoignages de meufs féministes qui expliquent qu'en fait, leurs convictions se sont forgées à partir de leur expérience personnelle, en fait, ouais. Tout simplement. Et après, il faut quand même avoir les armes parce qu'au départ, il y en a des tas de femmes qui sont victimes de violences et qui, pour autant, ne vont pas se raccrocher au féminisme ou à ces trucs-là. Qu'est-ce qui t'a orienté vers là, toi ? C'était déjà un truc que t'avais avant de commencer à subir des violences, peut-être et...
Ouais, c'est ça. Puis je te dis, j'ai été formée, entre guillemets, par une fille qui avait la théorie. Puis après, j'ai commencé à lire des livres. Et du coup, je pense que, comme les agressions sont arrivées après ou pendant, voilà. J'avais déjà le bagage culturel. Voilà, j'étais à Sciences Po. Enfin, j'étais déjà sensibilisée, quoi. Et puis c'était les années 2010, donc peut-être que si j'étais née plus tôt, voilà, on était déjà dans cette vague, nouvelle vague du féminisme.
Tu vois, c'est impressionnant parce que justement, tu décris... Enfin, moi, par exemple, si je prends mon exemple perso, ça m'est arrivé pas mal de fois d'avoir des gens qui me demandent « Mais t'as pas peur de faire ce que tu fais ?»
De faire quoi ?
Des trucs nuls, genre...
Non, pas des trucs nuls.
Non, mais des trucs assez genre banals, tu vois. Genre, voilà, faire du stop. Parce que pour l'anecdote...
Parce que tout à l'heure, on a fait du stop toutes les deux.
Voilà, j'ai rejoint Marie depuis la gare de Saint-Brieuc jusqu'à ici, en stop, toute seule. Et une des questions qui m'était posée par les gens qui m'ont pris en stop, c'est mais...
Ah oui.
Mademoiselle, vous avez pas peur de faire du stop toute seule ? J'étais là...
La pire question quand tu prends quelqu'un en stop pour lui faire peur, tu lui dis ça.
Donc j'étais genre, bah non, pas vraiment. Mais en fait, j'ai la chance de jamais avoir subi de violence directement.
Pas en stop en tout cas.
Bah alors en tout cas pas en stop. Et j'ai l'impression que chez les gens à qui tu le racontes, souvent ils ont peur de base et que c'est encore moins imaginable qu'une personne qui a déjà subi des violences se disent, bah si, en fait, je peux le faire et je peux le faire sans subir des violences. Donc c'est vraiment... Enfin voilà, je voulais juste souligner ce truc qui est pas forcément très commun, je trouve.
Oui, bah moi, en fait, ce qui est hyper important dans ma vie, c'est l'autodéfense féministe. Je sais pas si tu connais.
Je pense que je vois ce que c'est, mais je veux bien que tu expliques davantage.
Donc en fait, j'ai subi... Voilà, gros trigger warning, agression sexuelle. Dans cet épisode, je pense qu'il faudra le mettre.
On le mettra au début, ouais.
Donc j'ai subi une tentative de viol et donc un mec a essayé de me violer dans les toilettes d'une bibliothèque. Donc un mec que je connaissais pas, donc c'est un peu improbable comme situation. Et après, j'étais traumatisée, puis j'ai subi d'autres violences. Et cette année-là, c'était en 2018, j'ai pris des cours d'autodéfense féministe. Et à Paris, il y a quelques assos qui proposent ça. Donc j'ai payé genre 70 euros, je crois, pour 2 jours, un week-end. Et on était genre une dizaine de personnes. Voilà, c'est en non-mixité, quoi. Et en fait, c'est pas que l'autodéfense physique. On pense souvent à l'autodéfense féministe comme on va mettre un coup à la personne, mais en fait, il y a beaucoup d'autodéfense émotionnelle, donc de se sentir capable de justement lutter contre cette peur qu'on a, et de l'autodéfense verbale. Parce qu'on subit tout le temps des agressions verbales dans la vie, même juste ta grand-tante ou ta mamie qui te dit « Mais t'as les cheveux courts, je te préfère avec les cheveux longs. » Enfin voilà, en fait, on n'a pas à subir tout ça. Et du coup, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ma capacité à me défendre, ne serait-ce qu'émotionnellement ou verbalement. Et après, oui, on a appris à casser des genoux et à évanouir, faire que quelqu'un s'évanouisse en 2 secondes. Et vraiment en 2 secondes. Donc ça, même si je n'ai pas eu besoin de m'en servir depuis, ça donne une confiance énorme. C'est-à-dire que si, forcément, là, pendant mon tour de France, je rencontre tous les jours, des gens qui me disent... dès que je rencontre quelqu'un seul, on me dit « Mais vous n'avez pas peur ? Mais si la nuit, vous êtes sous votre tente et il y a quelqu'un qui arrive ?» Je dis « Bon, déjà, ce n'est pas possible, mais imaginons ça arrive, bah, je sais lui casser le genou. S'il essaie de me violer, je sais quoi faire avec son pénis pour qu'il s'évanouisse. » etc. Donc ça, moi, l'autodéfense féministe, c'est le nouveau combat de ma vie. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les personnes minorisées se forment à l'autodéfense. Parce qu'à un moment donné, si on n'a pas confiance en soi, bah forcément, si on est agressé, on va juste rester chez soi, quoi. Et c'est ce que les agresseurs veulent, hein, c'est ce que le système veut. Donc non, c'est pas possible.
C'est une manière de lutter aussi contre l'invisibilisation
dans l'espace public.
Et je pense que sur l'autodéfense féministe, là, on a dit qu'il y avait des assos à Paris, mais je pense qu'il y en a dans beaucoup d'autres endroits. Donc, n'hésitez pas à vous, je le dis là, hein, à vous renseigner sur ce qui peut exister près de chez vous.
Et moi, je vais me former aussi. Je vais me former en Belgique pour être formatrice. Donc, j'essaierai aussi de devenir formatrice en autodéfense et de pouvoir donner des cours un peu partout en France, mais dans les prochaines années. C'est mon but.
Trop bien. Comment t'avais découvert ça, toi, l'autodéfense féministe ? Enfin, c'était suite à tes agressions que t'as cherché des solutions, en gros, ou...
Ouais, mais je sais plus trop, je crois qu'on m'en avait parlé. Je sais pas si je peux dire le nom de l'asso.
Oui, bien sûr, tu peux
donc
dire
moi, l'asso que je recommande, ça s'appelle Lorelai, et ils font des cours à Montpellier et à Paris. Enfin, elles font des cours à Montpellier et à Paris, et c'est super, et les formatrices sont géniales. Et c'est en petit groupe, et donc j'en avais entendu parler ou je les avais suivis sur les réseaux sociaux. Ouais, j'étais allée à un festival où elles faisaient un premier cours. Parce que des fois, sur les festivals féministes, elles font voilà, une initiation à l'autodéfense. J'étais allée là pendant 3 heures, et puis après, du coup, ça m'avait plu, et je m'étais réinscrite pour le week-end complet qui donne vraiment ça s'appelle un stage de base, quoi. Donc je conseille Lorelai.
Et il y a des stages après pour pousser un peu plus, ou vraiment un week-end, ça suffit ?
Ouais, j'ai fait un week-end, donc j'ai fait le mini stage, enfin la mini session au festival. Après, j'ai fait le week-end complet, et après j'ai fait un renforcement. Enfin, j'ai fait une journée sur l'autodéfense en stop, justement pour toutes les personnes qui veulent faire du stop. Et il y a différentes sessions comme ça sur différents thèmes, comment se défendre pendant les fêtes de Noël ou en famille. Ou là, en ce moment, elles font des trucs sur enfin, comment se défendre en respectant les gestes barrières. Voilà, c'est vachement utile. Et donc, moi, j'avais fait sur l'autostop parce que tout le monde me disait « Ah, mais tu fais du stop, mais c'est hyper dangereux. » Et du coup, maintenant, je sais quoi faire quand je suis dans une voiture, s'il y a quelqu'un qui ne veut pas s'arrêter. Si le conducteur ne veut pas s'arrêter, bah, je sais comment faire arrêter la voiture, concrètement.
Mmh. Vas-y, tu peux partager le tips parce que moi, je ne sais pas.
Alors, y a une... donc, si la personne ne veut pas s'arrêter, un tip, c'est d'ouvrir la boîte à gants et de jeter tout ce qu'il y a dans la boîte à gants par la fenêtre. Normalement, la personne s'arrête. Ou si vraiment elle ne s'arrête pas, il faut avoir un bout de papier, n'importe lequel, et un briquet. Tu mets le feu au bout de papier et tu jettes le papier sur la plage arrière. Donc là, ça met le feu à la voiture. Enfin, au moins, le mec va croire que ça va mettre le feu à la voiture. Il va forcément s'arrêter, quoi. Après, bien sûr, il faut prendre la plaque d'immatriculation en photo. Il ne faut jamais mettre son sac dans le coffre. Il faut toujours garder son sac avec soi. Enfin, il y a des trucs comme ça. Et puis après, il y a toute l'autodéfense physique. Comment on peut se défendre physiquement dans une voiture parce qu'on n'a pas accès à ses pieds, etc. Donc, c'était super génial. Mais après, c'est sûr que l'autodéfense, il faut répéter de temps en temps parce qu'on oublie. Moi, c'était il y a plus d'un an que j'ai fait cette formation en autodéfense en stop, par exemple. Mais c'est génial.
Eh ben, je ne savais pas que ça existait et je suis très contente de l'apprendre. Voilà. Finalement, c'est très politique, ces sujets d'être une aventurière féministe. Je ne sais pas quel est ton rapport, toi, avec ce mot politique. Qu'est-ce qu'il veut dire pour toi ?
Bah, j'adore, j'utilise toujours. J'ai un podcast donc, qui s'appelle Marie sans filtre. Et le but de mon podcast, c'est juste de dire que le personnel est politique. Donc, je raconte des trucs ultra personnels. Les gens doivent se dire, mais pourquoi elle raconte sa vie? Alors qu'en fait, ça a tout de suite un sens politique quand on sait que ça se passe dans un système patriarcal qui veut nous opprimer. Et donc, tout ce qu'on fait, c'est politique, en fait, en tant que, en tant que personne minorisée. Donc, moi, mon survivor tour, bah, je pourrais juste marcher. Et ce serait déjà politique. J'ai pas besoin de... Par exemple, là, je relais aussi une cagnotte pour une association féministe qui s'appelle Parler.
Association dont la fondatrice Sandrine Rousseau était la première invitée du podcast Activiste, si vous voulez en savoir plus dessus, je le glisse.
Voilà, et donc Parler organise des groupes de parole entre personnes victimes de violences sexuelles. Donc voilà, j'essaie de relayer cette cagnotte, donc d'avoir un sens aussi concret, donner un sens concret à ma marche. Mais en soi, je pourrais juste être en train de marcher dans l'espace public, ce serait déjà politique, parce que quand on marche dans l'espace public et qu'on est seule en tant que femme, bah, on se fait emmerder tout le temps, où les gens nous disent « Ah, mais vous n'avez pas peur ?» Enfin, c'est omniprésent, et dormir dans la forêt encore plus, donc... pour moi, je fais de la politique, je suis une militante. Surtout en tant que journaliste, c'est hyper compliqué de dire qu'on est militant parce que les journalistes disent toujours non, je suis pas militant, je suis objectif, je suis neutre. Bah non, enfin tous les journalistes sont militants. Bah moi, je suis militante parmi d'autres. Et voilà, enfin, ce qu'on fait, c'est politique puisqu'on lutte contre le système. Enfin moi, en tout cas.
Est-ce que tu donnerais un exemple des trucs que t'as raconté dans ton podcast qui semblerait très personnel comme ça et où tu peux pointer la dimension politique qu'il y a dedans, par exemple?
Oui, tous les épisodes.
Bien
alors,
sûr.
Je vais prendre un seul exemple. J'ai fait un épisode qui s'appelle « Je suis célibataire ». Donc, on peut se dire « Ok, donc la meuf est célibataire, bah, c'est pour des raisons personnelles. La pauvre, c'est parce qu'elle n'a pas trouvé chaussure à son pied. C'est parce qu'elle est trop chiante. C'est parce qu'elle est féministe radicale. Je ne sais pas. Ou c'est parce qu'elle a envie d'être célibataire. » Bah non. J'explique pas pourquoi je suis célibataire, j'explique que je suis célibataire politique. C'est-à-dire que moi, mon célibat, pourquoi je suis célibataire ? Bah parce que j'ai pas envie d'être opprimée par le système et qu'une personne, on va dire une femme qui se met en couple hétérosexuel, elle a tout à perdre. Vraiment, quand on se met en couple hétérosexuel, on va forcément perdre quelque chose. On va forcément subir au moins une remarque sexiste dans cette relation, au moins une fois dans sa vie. On va forcément faire un peu plus de tâches ménagères. Si on a des enfants, j'en parle même pas là, c'est vraiment l'explosion des inégalités. Mais du coup, moi, j'explique juste un truc plus simple. Tout simple, c'est-à-dire que les femmes qui se mettent en couple avec un mec, elles vivent moins longtemps, c'est prouvé par des études scientifiques, elles vivent moins longtemps et moins heureuses que les femmes célibataires. Et inversement, les mecs qui se mettent en couple avec une femme, ils vivent plus longtemps et ils sont plus heureux qui est les mecs célibataires. Donc déjà, si tout le monde savait ça, au lieu de regarder des comédies romantiques et Cendrillon, si juste on savait qu'on n'a pas intérêt à se mettre en couple hétérosexuel, peut-être qu'on réfléchirait à deux fois avant de le faire. Donc même le célibat, c'est politique, tu vois. C'est un peu ça ma démarche, mais après, il y a plein d'autres épisodes. Voilà.
On mettra le lien du podcast, de ton podcast, dans la description de ce podcast.
Cool.
Comme ça, les gens pourront aller écouter directement
Marie
tes
sans
épisodes sur Marie sans filtre. Ouais.
Merci.
Je voulais en profiter pour rebondir sur un truc que tu as dit juste avant, sur en tant que journaliste, c'est chiant, on ne peut pas dire qu'on est militant, etc. Voilà. Parce qu'effectivement, tu es journaliste. Déjà, pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier ?
Bah, je pense que ça a tout à voir avec le militantisme. J'ai choisi ce métier pour changer le monde. Donc déjà, si tu veux être journaliste pour changer le monde, c'est que tu es militante. Je pense qu'il y a des journalistes qui choisissent ce métier juste pour raconter les événements d'un point de vue neutre et objectif. voilà. Après, on peut aussi partir sur pourquoi je pense que ce sont des militants quand même. Mais du coup, moi...
on va y venir.
Moi, du coup, je voulais déjà changer le monde. Donc déjà, ça a posé le décor. Et puis après, je voulais être écrivaine. Puis la société où mes parents m'ont dit que ce n'était pas un métier d'être écrivaine. Et puis, je pensais que je n'avais pas d'imagination. Du coup, je me suis dit, je vais raconter la vraie vie, donc je vais devenir journaliste. Et du coup, à 12 ans, j'ai décidé que je voulais être journaliste. Et après, j'ai organisé toute ma vie en bonne maniaque du contrôle pour devenir journaliste. Donc, à 14 ans, je savais exactement quel lycée j'allais faire, quel bac, quelles études supérieures et quelle école de journalisme j'allais faire. À 14 ans. Et j'ai tout fait comme prévu.
Et alors, ça t'a amené où?
Bah, ça m'a amené au mauvais endroit, mais ça je pouvais pas savoir. C'est ce qu'en fait j'avais prévu jusqu'à la fin, jusqu'à école de journalisme, mais j'avais pas prévu qu'est-ce que j'allais faire comme journaliste après. Du coup, quand je suis arrivée à l'école de journalisme, on m'a dit, alors, tu veux faire quoi après comme entreprise, comme rédaction? Je dis, ah, faut choisir. Du coup, je me suis dit, ah, j'ai très envie de bosser à l'étranger. Puis j'étais passionnée par la Russie. Donc, une des seules boîtes, un des seuls médias qui recrute encore des journalistes pour les mettre à l'étranger et bien les payer, c'est l'agence France Presse, l'AFP, qui est une agence mondiale et qui travaille en plein de pays. Donc, je suis partie travailler à l'AFP, à l'agence France Presse, en disant, ouais, ils vont me mettre en Russie, je vais pouvoir travailler à l'étranger, ce qui ne s'est jamais passé. Et j'ai passé juste... C'est pas sympa pour l'AFP, mais ils le méritent. J'ai passé juste les deux années les pires de ma vie. Voilà.
À l'AFP.
Ouais.
Mais parce que c'était pas le style de journalisme que tu voulais faire ou...
Bah, il y avait plusieurs choses. C'est-à-dire que bah, déjà, dès que je suis arrivée, je me sentais pas bien. Je sais pas si c'était déjà arrivé de pas te sentir bien dans une rédaction, mais je pense que les rédactions sont pas faites pour accueillir des nouvelles personnes, des stagiaires, des jeunes. Surtout les rédactions nationales, c'est assez dur de s'intégrer. Donc je me sentais pas bien, donc ça aurait dû déjà me mettre la puce à l'oreille. Et puis après, oui, l'AFP, le but, c'est d'écrire des dépêches assez courtes sur un ton neutre et objectif. Et donc, c'est pas fait pour moi. Moi, j'aime écrire des longues choses et faire des longs reportages, genre un tour de France à pied, par exemple. Et puis, en fait, j'allais quasiment jamais sur le terrain. Enfin, voilà, je débutais, je faisais du desk. Et puis après, ce qui s'est passé...
Petit point vocabulaire, le desk. Parce que ça, c'est du jargon journalistique.
Ouais, je faisais du bureau, enfin, desk bureau. Donc, j'étais devant un ordinateur et je traitais les dépêches des autres pour les mettre sur Internet. Donc, on corrige, on met en forme. Enfin, voilà. Ça dépend de ce qu'on peut faire en desk. Et après, j'ai été harcelée sexuellement par un collègue. Donc là, ça... heureusement que ça m'est arrivé finalement, parce que du coup, ça m'a permis d'avoir un déclic dans ma tête et de me dire, en fait, il faut que je parte de cet endroit. Alors que c'est le mec qui aurait dû partir. Mais moi, en tout cas, j'étais pas faite pour l'AFP, donc je suis partie.
Et maintenant, tu es contente du mode de journalisme que tu pratiques ?
Bah, moi, je vis ma meilleure vie depuis le 1er janvier 2019, puisque je suis partie le 31 décembre 2018 de l'AFP. Et j'ai décidé de voyager, donc j'ai fait un tour du globe en cargo, j'ai fini le chemin de Compostelle. Là, je suis en train de faire le tour de France à pied, j'ai écrit un roman qui s'appelle La Puissance. J'ai lancé mon podcast Marie sans filtre, j'ai fait 10 000 autres trucs, j'ai milité pour le féminisme. Mais après, voilà, les gens vont se demander, d'accord, et comment tu gagnes ta vie ? Donc je vais te répondre, là, je touche le chômage de l'AFP. Donc voilà, on va voir dans 3 mois, quand j'aurai plus de chômage, comment je vais vivre en fait. Moi, je vis ma meilleure vie, mais à un moment donné, comment on monétise nos quelques piges par-ci par-là ? Le podcast, ça rapporte pas d'argent. Le militantisme, ça rapporte pas d'argent. L'aventure, ça rapporte pas d'argent, au contraire. Donc moi, je vis ma meilleure vie, mais dans 3 mois, je suis RSA, quoi. Au RSA.
Et alors, effectivement, t'es militante et journaliste. T'en fais une revendication. T'as dit un truc tout à l'heure qui m'intrigue. T'as dit même ceux qui se veulent neutres et objectifs, ils sont militants. Est-ce que tu peux expliquer un peu ça ? Pourquoi tu considères que tous les journalistes sont militants ?
Ouais, donc là, je voudrais juste rendre à César ce qu'il y a à César, parce que c'est pas moi qui ai découvert ça. C'est notamment les journalistes Sia Masbag et Alice Coffin qui expliquent ça très bien. C'est qu'en fait, on vit dans un système blanc, cisgenre, hétérosexuel, patriarcal et capitaliste. Donc, les personnes qui ressemblent le plus à ce système, on va dire par exemple le journaliste de l'AFP, cisgenre, hétérosexuel, blanc et riche, en fait, lui, il écrit des dépêches selon son point de vue. Mais son point de vue, puisqu'on écrit toujours de son propre point de vue, on n'est pas des robots, son propre point de vue, c'est le point de vue du système. Donc forcément, les dépêches ont l'air neutres et objectives, puisqu'on est, depuis qu'on est né, on lit que des textes sous cette forme, on est habitué à avoir ce point de vue dominant. C'est le point de vue dominant. Donc les dominants ont l'impression d'être neutres et objectifs, mais en fait, ils militent pour la domination, ils militent pour le système. Et donc, dès qu'on arrive avec une voix un peu différente, dès qu'on essaye de faire différemment, en fait, on est classé dans le... je suis classée dans le rang militante. Alors que moi, je veux juste un système différent. Et donc, par exemple, à l'AFP, quand je voulais mieux traiter les dépêches qui relataient des violences faites aux femmes, on me disait, non, elle est très bien la dépêche. Alors qu'en fait, bah, la dépêche, elle culpabilisait la victime, elle racontait des détails intimes sur la vie de la victime, elle sexualisait la victime. Enfin voilà, il y avait toutes sortes de problèmes. Et on sait aujourd'hui qu'il faut parler des violences conjugales, des féminicides, il faut mettre le mot féminicide. Enfin, ça évolue, mais ça évolue super doucement parce que le système n'a pas intérêt à ce que ça change. Donc forcément, bah, les personnes qui vont, par exemple à l'AFP, qui vont s'épanouir à l'AFP, c'est les personnes qui vont accepter d'écrire en utilisant le ton de l'AFP, donc le ton des dominants, tout simplement. Donc ils militent pour le système, même s'ils vont te dire qu'ils ne sont pas militants. Et nous, à l'inverse, on doit toujours se dire « Non, on n'est pas militant, non, je ne suis pas militante, je suis juste journaliste engagée. » Mais engagée et militant, c'est pareil. Enfin, ce n'est pas un gros mot d'être militante, en fait.
Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent « Mais du coup, tu n'es pas journaliste. » Enfin, qu'est-ce qui te différencie de, je sais pas, quelqu'un qui serait juste engagé sur une cause, mais qui ferait plus de, je sais pas, de la propagande, par exemple ?
Bah, franchement, le journalisme, c'est une sorte de propagande. Enfin, comme je te dis, il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas d'objectivité. Donc, et puis, on lit que les journaux, on écoute que les radios et on regarde que les télévisions qui vont dans notre sens, finalement. Donc, on est toujours confirmé par ce qu'on lit, par ce qu'on regarde en tant que spectateur ou spectatrice. Donc, moi, les gens qui me lisent, bah, ils sont d'accord avec moi, malheureusement. Donc, je ne sais pas si je vais vraiment faire changer les mentalités. Mais en tout cas, pour te répondre, moi, je suis journaliste parce que j'écris des articles qui sont publiés dans la presse, parce que je fais du travail de journaliste, je fais du reportage, j'écris des livres, je fais de l'enquête, je fais un podcast, j'ai la carte de presse. Voilà. Bah, après, on n'est pas obligé d'avoir la carte de presse, mais je fais du boulot de journaliste, quoi. Et c'est moi qui ai décidé d'être journaliste. Personne ne peut me dire « Non, toi, t'es pas journaliste. » Bah, si j'ai décidé d'être journaliste, je suis journaliste. Enfin, y a pas besoin d'un diplôme, quoi.
Ça, c'est un truc assez récurrent, pourtant, qu'on voit souvent des journalistes qui sont souvent... Alors, peut-être que c'est un biais de confirmation, là encore, hein, mais j'ai l'impression que les journalistes qui sont donc qualifiés de journalistes militants, c'est jamais les journalistes du Figaro, tu vois, ou les journalistes de Valeurs Actuelles. Mais en réalité, bah, voilà, eux aussi, ils véhiculent une certaine idée du monde, comme tu le disais à l'instant.
Voilà.
Et, mais ça m'intéresse ce que tu soulèves là, parce que c'est une question à laquelle j'ai réfléchi la semaine dernière, sur comment toucher aussi les gens avec qui, les gens qui ne sont pas forcément d'accord de base avec ce que toi tu véhicules comme pensée dans tes articles, etc. Est-ce que c'est un truc auquel tu as réfléchi, toi, ou...
Bah, en étant sur le terrain, je pense que c'est le plus important. Sur les réseaux sociaux, on n'est suivi que par des gens qui sont plus ou moins d'accord avec nous. Et sur le terrain, je pense qu'on peut plus toucher de gens. C'est, par exemple, si je fais le tour de France à pied, bah, je vais dormir chez des gens, je rencontre des gens sur le terrain. Voilà, je peux les sensibiliser, leur ouvrir les yeux sur certaines choses. Après, écrire, être publié ou faire des vidéos sur YouTube, par exemple, comme ce que tu fais... comment toucher plus de monde sur Internet, ça c'est une bonne question. Parce que les algorithmes ne sont pas faits pour t'ouvrir à d'autres questions. Donc je n'ai pas encore trouvé la solution. Mais déjà, si je peux rameuter des féministes autour de moi, c'est déjà pas mal.
Dans la manière dont tu prends la parole, donc dans tes contenus, moi je te suis principalement sur Insta et tout, donc voilà, mais tu as une manière de t'exprimer qui est... en anglais, on dirait unapologetic. Je sais pas le dire. Genre, tu t'excuses pas d'être là, quoi. Tu t'excuses pas de dire ce que tu dis, et même si tu sais que tes propos ils peuvent parfois faire polémique ou choquer, etc. Est-ce que t'as toujours fait ça et que tu t'es jamais posé la question de ah mince, à partir du moment où je prends la parole, en fait, je peux pas être aimée par tout le monde?
Bah si, mais en fait les gens ils vont pas forcément me le dire. Par exemple sur Instagram, on en parlait tout à l'heure hors micro, c'est-à-dire que si les gens n'aiment pas ce que je dis, bah ils me unfollow. Le plus dur c'est quand j'ai des amis qui viennent me dire bah là t'as été trop loin. Mais là c'est plutôt dans le côté amitié. Forcément si je dis quelque chose à quelqu'un et que la personne le prend mal, bah faut que je me remette en question. Mais si je raconte ma vie, que je dis par exemple je déteste les hommes, des trucs comme ça, bah les gens vont pas me dire. Enfin, s'ils me disent qu'ils sont pas d'accord avec moi, j'en ai rien à faire. Enfin, moi, j'ai pas envie de faire de mal aux autres. je veux dire aux personnes individuellement, j'ai pas envie de cibler une personne individuellement, mais par contre dans ce que je pense moi, si les gens sont pas d'accord avec moi, tant mieux, tant pis, mais je peux pas plaire à tout le monde, enfin ça semble évident. Et puis au contraire, je pense que ça fait du bien à pas mal de meufs de voir que je m'excuse pas et que je suis radicale et que peut-être elles pensent ça tout bas mais elles osent pas le dire tout fort. Et voilà, après bien sûr des fois peut-être que plus tard, ça va me porter préjudice et que personne m'aimera et que je serai seule au monde. Mais pour l'instant, j'ai des amis qui m'aiment et j'ai pas l'impression de leur faire du mal. Donc, ça va. Je ne vise que les hommes, cisgenre hétérosexuel. Donc, ça va.
Mais tu vois, en vrai, c'est pas facile comme position à adopter, je pense. Enfin, parce qu'on sait pas ce qu'on nous apprend aux meufs. On nous apprend plutôt à être sage et à pas trop déranger. Et toi, t'arrives avec tes gros sabots et tu parles de misandrie, tu vois. Enfin, est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que depuis que t'es petite, t'as toujours osé dire ce que tu voulais au moment où ça avait besoin de sortir? Ou est-ce que c'est un truc que t'as appris?
Bah ouais, tu vois, mon podcast, il s'appelle Marie sans filtre et c'est pas moi qui ai inventé le nom, quoi. C'est que les gens m'appellent comme ça. Donc, ouais, mes parents, ils n'en peuvent plus. Ma famille, je parle tout le temps. Je dis tout le temps ce que je pense. Les gens, tu vois, si ma famille me dit « Ah, j'en peux plus que tu parles de féminisme tout le temps !» Mes parents, ils n'en peuvent plus. Pendant le confinement, ils n'en pouvaient plus. Mais en fait, moi, je vais me taire pendant 5 secondes et puis après, je vais revenir au galop. Enfin, je ne peux pas me taire. C'est impossible. Et donc, j'ai toujours été comme ça.
Même en tant qu'enfant.
Ouais.
T'étais une enfant qui prenait la parole. C'était quoi? Parce que ça, c'est une des questions que je t'ai pas posées. C'était quoi ta première indignation?
La question horrible. Non, j'ai jamais pu répondre à cette question. Enfin, je sais pas comment les invités de ton podcast font, mais je peux pas. Je me rappelle absolument pas.
Non,
il faut réfléchir avant. Tu peux pas me poser cette question comme ça de but en blanc.
Hey Marie, tu savais que t'étais invitée sur Activiste?
Non, cette question-là, tu m'avais pas prévenue.
Je sais que tu écoutes le podcast. Non, en vrai, pas de souci si tu réponds pas, mais en tout cas, voilà, dès que t'étais enfant, il y avait déjà des trucs, même si tu sais pas ce que c'était, qui t'indignaient, quoi. Et t'as toujours été capable de le verbaliser et de dire « Ouais, hey, ça, c'est pas juste ».
Non, pas vraiment en fait.
Mais c'est quand du coup la première fois que t'as dit « Eh, ça c'est pas juste ». T'as un déclic pour passer de « c'est dans ma tête » et « ah ça y est, ça va franchir mes lèvres ».
Mais je pense que c'est arrivé super tard, même voire quand j'étais ado.
Moi, non, quand j'étais, c'est pas grave.
Quand j'étais enfant, j'étais super sage, je levais jamais la main en cours, j'étais vraiment la bonne élève à la maison. Mes frères, sœurs et moi, on était super sages, tu vois. Moi, c'est à l'adolescence, j'ai explosé. Mais après, quand j'étais petite, oui, je parlais tout le temps et je donnais aussi mon avis. Mais je ne peux pas me rappeler de ma première indignation.
Ce n'est pas un problème. Je voudrais parler un peu des modes d'action que tu emploies, parce que jusqu'ici, on l'a vu, c'est beaucoup la parole, la prise de parole sous les formes possibles. La marche et le voyage, mais le fait aussi que tu parles du coup de ta marche et de ton voyage. Est-ce que tu as d'autres modes de mobilisation? Est-ce que tu es, je sais pas, investi dans des collectifs, des trucs comme ça?
Ouais, j'ai fait pas mal de collectifs. Enfin, j'ai fait un peu de collectifs et ça s'est pas bien passé. Enfin, ça s'est bien passé, mais ça s'est pas très bien fini. Et j'étais pas mal investie dans le collectif Cyclique, qui est un collectif qui sensibilise aux règles, au cycle menstruel, à la gynécologie, à la santé sexuelle dans son ensemble. Et on organisait un festival qui s'appelle Sans Rancune. On l'a organisé deux fois à Paris, deux années de suite. Et puis après, j'étais un peu investie aussi dans Lorelai, tu sais, l'association d'autodéfense dont je te parlais. Et puis après, j'ai fait aussi une action féminine en 2019 contre les féminicides. Donc j'ai fait un peu de collectif. Après, j'ai fait aussi des manifs. Et maintenant, je suis plutôt investie dans les associations de journalistes. Il y a l'association de femmes journalistes qui s'appelle Prenons la Une, l'association des journalistes LGBT+, la JL. Je me suis syndiquée à la CGT section journaliste. Je suis aussi un peu active dans Profession Pigiste, qui est un collectif de pigistes, donc de journalistes indépendants, indépendantes. Je suis aussi... en fait, j'adhère à plein de trucs différents, mais comme je suis très indépendante et que je supporte pas le groupe, parce que ça m'angoisse de faire des trucs en groupe, c'est pour ça que je marche seule. Des fois, ça se finit pas très bien ou j'essaye de pas trop m'investir parce que j'ai peur que ça se finisse mal.
J'avoue qu'en te posant la question, je m'attendais pas à un tel foisonnement de groupes divers et variés.
Que du coup, je ne sais pas forcément.
Je ne sais même plus par quel bout prendre. Mais non, mais tu dis, il y a une différence entre adhérer à un truc et du coup faire partie vite fait des discussions qu'il peut y avoir. Enfin, moi, par exemple, je suis adhérente de Prenons la Une, mais je n'ai pas d'activité particulière au sein de ce collectif. Donc Prenons la Une, je rappelle, c'est ce collectif de femmes journalistes. Mais toi, tu fais plus que ça dans Prenons la Une.
Ouais, dans chaque collectif, j'essaye de faire un peu plus, mais pas non plus... Un peu plus, mais pas non plus énorme. Par exemple, dans Prenons la Une, je fais partie du pôle écoute. Donc, on va bientôt ouvrir une ligne téléphonique pour recevoir des appels de femmes journalistes qui subissent peut-être du harcèlement sexuel ou des violences sexuelles dans leur rédaction. Donc, je fais partie du pôle écoute. Mais voilà, je ne vais pas non plus devenir chef d'un pôle ou devenir vice-présidente d'un collectif, j'essaie toujours d'être un petit peu moitié fantôme, moitié active, tu vois. Parce que de toute façon, je suis jamais là vu que je voyage tout le temps.
Oui, donc mécaniquement, tu peux pas avoir forcément des engagements très prenants en termes de temps. Mais c'est intéressant, en tout cas, cette ligne qui va ouvrir sur Prenons la Une. Est-ce que tu peux expliquer un peu la genèse et le pourquoi et le comment ça va fonctionner?
Non, je peux pas parce que je sais même pas si j'ai le droit d'en parler. Donc je pense que oui, mais je suis pas du tout responsable du pôle. Et donc je préfère qu'elles en parlent elles-mêmes.
Eh bien, on les
entend. Mais cette ligne devrait ouvrir va ouvrir dans les prochains mois.
Attention, petite mise à jour. Entre l'enregistrement de ce podcast et sa publication, cette initiative a été lancée, mais finalement sous forme de mail. Les infos en description, comme d'habitude.
Avec tout ce que tu fais, ça a l'air quand même très énergivore. Là, tu le disais sur ton tour de France en marchant, c'est y compris très fatigant physiquement, mentalement aussi. Je crois qu'il y a des moments où tu as failli jeter l'éponge et arrêter avant la date que tu t'étais fixée.
Ouais.
Avec en prime tout, je sais pas, enfin c'est fatigant aussi justement de se battre contre un certain nombre d'oppressions et d'être militante. Est-ce que ça t'arrive d'avoir envie d'arrêter? Juste, genre stop, laissez-moi tranquille.
Non.
Jamais.
Non.
Je crois que t'es une des seules personnes qui a répondu par la négative à cette question.
Oui, mais j'ai que 26 ans.
Non, mais même des personnes qui ont cet âge-là, généralement, ils répondent de « oui, ça m'arrive », tu vois.
Non, parce que je pense que... Je te dis, j'ai toujours voulu changer le monde et je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Moi, je veux pas d'enfants, je veux pas me marier, je veux pas me mettre en couple, je veux pas acheter de maison, je veux pas acheter de voiture. Enfin, pour l'instant, tu vois, j'ai pas du tout ça comme projet. Je veux juste changer le monde et le système. Et du coup, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Donc c'est sûr que s'il y a des moments, oui j'ai fait un burn-out, oui il y a des moments où j'étais en dépression, oui il y a des moments où j'en peux plus du militantisme, mais en fait je me recentre sur moi, voilà, je fais un tour du globe en cargo, je fais un tour de France à pied, je sais que ça a l'air fatigant mais pour moi c'est des moments où je me recharge en fait. Et voilà, on peut militer aussi à distance, je peux prendre plusieurs mois pour moi sans rien faire, enfin... Je ne suis pas obligée de militer tout le temps. Je ne suis pas obligée de travailler tout le temps. Moi, j'ai choisi aussi cette vie de freelance pour avoir le temps de... Voilà, j'ai pas besoin de répondre à mes mails dans les 5 minutes, quoi.
Mais tu vois, il y a plein de gens qui diraient... toi, par exemple, dans ce que tu fais, t'aimes bien voyager. Il y a plein de gens qui pourraient avoir envie de voyager en effaçant... pas forcément la portée politique, parce que tu expliquais tout à l'heure que juste le fait de voyager seul ou de voyager tout court, c'est politique. Mais par exemple, de voyager en faisant pas...
Prenant des vacances, quoi.
Ouais, voilà. En prenant des vacances.
Ouais, non, mais je parlais de ça avec ma meilleure amie l'autre jour. Je n'ai pas pris de vacances depuis des années. Et je peux pas genre partir et me dire « Ah, je vais juste rien faire. » Je peux pas. Même si je pars à un endroit pour me déconnecter, ça va forcément devenir un truc. Ah, je vais faire une semaine de méditation, je vais faire du yoga, je vais me déconnecter des réseaux sociaux. Enfin, tu vois, ça va être organisé et il y aura forcément un objectif. Je vais pouvoir faire des trucs plus créatifs, écrire mon livre. Et je pense que ce sera intéressant que je fasse des vraies vacances. Et je pense que là, je suis tellement épuisée à cause du Tour de France que quand je vais revenir chez moi, il va falloir que je me repose. Mais ce n'est pas non plus des vraies vacances. C'est juste que je serai épuisée, donc je vais juste dormir. Mais oui, il faudrait que je me repose de temps en temps.
Ce serait quoi un conseil que tu donnerais à quelqu'un
d'hyperactif ?
Non, justement, genre, toi, qu'est-ce qui fait que tu tiens comme ça ?
Bah, je suis hyperactive, ouais, c'est mon caractère.
Ok.
Toi aussi, non ?
Je sais pas si je me qualifierais d'hyperactive.
Tu prends juste 3 fois le train par semaine.
Non, mais ce que tu sais pas, c'est que je fais ça, mais que entre les voyages en train, je vais passer une journée à rien faire, peut-être, tu vois, à chaque fois.
Non, je suis pas sûre que tu vas rien faire.
Non, pas cette semaine. Mais cette semaine est particulière.
Mais même les journées où tu fais rien, tu fais quelque chose, tu vas aller mettre une story Instagram, tu vas travailler sur ton ordi.
Là, cet été, par exemple, j'ai eu plein de moments où je faisais juste rien.
Ouais, bah j'aimerais bien faire ça.
Parce que justement, je m'étais rendu compte que... Enfin, il y a des moments où j'arrivais pas à décrocher et j'en avais besoin, quoi.
Bravo.
Merci, j'en suis assez fière.
Tu devrais écrire un livre.
Comment prendre des vacances ?
Non, c'est contradictoire. Il ne faut pas écrire de livre. Il faut juste rien faire.
Okay.
Ça fait mal au bras, ton micro.
Oui, car il faut le tenir. Tu as le droit de changer de main.
Surtout que j'ai mal à l'autre bras.
Voilà, on peut faire une pause secouage de bras avant de passer aux questions mitraillettes. Quelqu'un qui voudrait faire la même chose que toi, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Je lui dirais ne surtout pas écouter les conseils des gens, les menaces des gens, les peurs des gens, de n'écouter personne. Parce qu'à partir du moment où j'ai dit aux gens que je voulais faire le Tour de France à pied, bon, il y a les copines féministes qui disent « Ah, trop cool !» Mais après, tout le reste des gens, c'est « T'as une chenille sur l'épaule
ah, !» Ah oui, mais c'est celle que j'ai enlevée de mon pied tout à l'heure. Et elle se retrouve sur mon épaule. Alors attends, vas-y.
Donc je disais que les gens ont toutes sortes de peurs qu'ils projettent sur moi. Donc si je peux donner un conseil à une personne qui veut faire le Tour de France à pied ou juste le tour de sa ville à pied ou juste dormir dans la forêt ou même juste partir en vacances toute seule, il faut pas écouter les gens car les gens vont te dire que tu vas être violée et assassinée et ce n'est pas vrai.
La preuve, tu es encore vivante et en bonne santé.
Oui, et bien sûr, moi, je demande souvent aux gens, alors dites-moi un cas récent de randonneuse française en France qui dormait dans la forêt et qui a été assassinée. Je n'en connais pas. La dernière joggeuse qui a été assassinée, c'est son mec qui l'a tuée, Alexia Daval. Donc, on arrête de projeter les peurs et si tu veux partir tout seul, tu pars. Et si tu as peur de t'ennuyer, bah oui, au début, on s'ennuie un peu. Et en fait, non, moi, je ne me suis jamais ennuyée. J'adore voyager seule. Mais voilà, il faut vraiment en avoir envie. Hein. Je ne veux faire forcer personne à voyager seule. Hein.
Non, mais effectivement, je pense que c'est important. Et c'est un mode de voyage qui est vraiment différent. Et c'est vrai que c'est triste. Moi, j'ai l'impression de tout le temps entendre des meufs qui me disent « Ouais, j'aimerais bien partir seule, mais j'ose pas. » Genre, elles ne s'en sentent pas forcément capables.
Ah oui, donc il faut que je dise ça, il faut que je dise si je peux te donner un conseil, tu en es capable, tu es forte, tu es courageuse, je ne suis pas une personne extraordinaire, je suis juste une personne normale, donc si moi j'y arrive, toi tu peux y arriver, mais il faut juste en avoir envie.
Mais du coup, ce serait quoi tes conseils pratiques ? Genre, c'est quoi toi ta méthode ? Par exemple, c'est quoi une journée type sur ton Tour de France là ?
Ah bah, ça dépend vraiment du voyage. Pour répondre à ta question, je vais dormir sous ma tente. Le matin, je vais prendre 2 barres de céréales, je vais boire de l'eau, je vais me laver les dents avec ma demi-brosse à dents et mon savon de Marseille. Ensuite, je vais m'habiller, je vais ranger mes affaires, je vais partir marcher. La priorité, c'est de trouver de l'eau et de trouver de la nourriture et de ne pas se perdre sur le chemin et de trouver un endroit où dormir le soir. Donc, ça fait beaucoup de missions dans une journée, sans oublier qu'il faut recharger le téléphone, qu'il faut avoir une carte sur soi pour ne pas se perdre. Et après, j'écoute des podcasts. Et c'est la vie
de marcher en écoutant des podcasts.
Oui. Et après, je parle.
Écouter beaucoup activistes. Surtout.
Je parle absolument à toutes les personnes que je rencontre, car je me sens très seule vu que ça fait 3 mois que je suis seule. Mais voilà, des conseils, bah, juste avoir confiance en soi. Enfin, après, j'ai pas besoin de te donner de conseils, de chercher de l'eau pour remplir ta gourde. Enfin, tout le monde sait qu'il faut le faire.
Ouais, mais en fait, par exemple, moi, j'ai appris un truc hier soir que je savais pas. Quand tu es dans un endroit et que tu sais pas où trouver de l'eau, parce que je sais pas, imagine, tu es arrivé tard le soir, les bars sont fermés, etc.
Je sais la réponse.
Alors vas-y, c'est quoi ta réponse à toi ?
Non, non, vas-y.
Moi, on m'a dit hier soir, je connaissais pas ce truc. En fait, dans tous les cimetières de France,
et oui,
il y a forcément un robinet d'eau potable. C'est voilà, genre obligatoire. Donc, en tout cas pour la France, si vous voyagez, et un conseil très pratique, voilà, où trouver de l'eau ? Dans un cimetière.
Et du coup, moi, le soir, ce que je fais souvent, parce que j'ai très mal aux pieds, c'est que je vais au cimetière, je remplis 2 arrosoirs d'eau froide, je mets mon pied dans un arrosoir et mon autre pied dans un autre arrosoir, et je passe 1 heure au cimetière. Mais c'est pas très respectueux pour les morts.
Donc, la question mitraillette suivante, c'était ce que tu aurais voulu savoir quand tu as commencé. Qu'est-ce qui t'aurait fait gagner du temps ?
Donc j'ai 26 ans et la première fois de ma vie où j'ai dormi toute seule dans la forêt sous ma tente, j'avais 26 ans. Donc ça, c'est un petit peu le truc que j'aurais aimé savoir avant, c'est qu'on peut acheter une tente et aller dormir dans la forêt. Et non, ce n'est pas interdit par la loi. Le bivouac sauvage est toléré dans la plupart des lieux. La règle numéro 1, c'est d'être invisible. Donc je m'éloigne un peu du sentier, je me mets dans la forêt, donc derrière des arbres, ou si je suis dans un champ, je vais souvent dans les champs de maïs, il y a souvent des endroits où le maïs ne pousse pas. Où je me mets derrière des buissons, là, on voit des buissons. Enfin, il faut avoir. Enfin, moi, si on m'avait dit avant que c'était possible de faire ça, de voyager avec ma tante, mais j'aurais économisé tellement d'argent, hein, au lieu d'aller dans les auberges de jeunesse, dans les hôtels, dans les trucs. Enfin, c'est la liberté. Bon, certes, une tente, c'est un petit investissement, mais moi, j'aurais bien aimé le savoir avant, en fait. Et on n'est pas obligé d'aller au camping, quoi.
Mais quand tu dis que c'est toléré et que la seule règle, c'est d'être invisible...
Non, 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 la règle, c'est la mienne, d'être
d'accord,
invisible.
D'accord, c'était ça ma question.
Mais si c'est toléré, t'as pas besoin d'être invisible, puisque t'es censé justement être visible.
Donc en France, en fait, on a le droit de faire du camping sauvage.
Alors non, il y a plein de zones où on n'a pas le droit, notamment les réserves naturelles. Mais et après, forcément, un champ de maïs, tu vas me dire, bah, le champ de maïs, il appartient à quelqu'un. Mais en fait, il y a plein de forêts qui sont publiques, dans lesquelles t'as le droit... t'as plein de terrains qui appartiennent à ce terrain où on est, on sait pas à qui il appartient. Si je n'y passe qu'une nuit, la personne, elle va rien me dire. Et moi, mon principe, c'est d'être invisible, comme ça, il y a encore moins de chances qu'on m'embête. Mais oui, si tu tapes sur Internet bivouac sauvage, à ne pas confondre avec du camping sauvage, parce que le camping sauvage, c'est quand tu passes plusieurs nuits au même endroit. Mais le bivouac sauvage, c'est une seule nuit, pas faire de feu, enfin vraiment emporter ses déchets avec soi. Bah là, la plupart des endroits en France, c'est toléré, quoi. Donc, okay, j'irai pas au commissariat.
C'est bien de démolir ces idées préconçues sur le voyage et tout ça, parce qu'effectivement, on se met parfois, je pense, trop de barrières alors qu'on ne devrait pas s'en mettre.
Et moi, j'ai toujours trouvé un endroit où dormir, toujours. Là, ce soir, je ne sais absolument pas où je vais dormir. Et au dernier moment, j'arrive toujours à trouver.
Mais du coup, ça t'est jamais arrivé encore de te faire repérer ou que des gens trouvent ta tente et t'embêtent ?
Si, alors la seule fois où j'ai pas du tout respecté ma règle numéro 1 d'être invisible, parce que j'étais, tu sais, je venais passer la journée au nez de Jobourg, je t'en ai parlé tout à l'heure, la pointe de la Normandie, du Cotentin, j'étais trop contente, je me sentais trop puissante, j'étais épuisée, j'avais pas dîné, enfin je devais juste dormir, le soleil allait se coucher, donc j'ai pas du tout respecté ma règle numéro 1 d'être invisible, donc je me suis plantée à 5 cm du sentier, dans un village. Donc les maisons étaient assez loin, j'étais sur la plage, donc déjà j'étais sur la falaise au-dessus de la plage, donc si la falaise s'écroule, je meurs. J'étais à côté du sentier, donc pas du tout invisible, mais la nuit tombait, donc je me suis dit, la nuit, personne ne se balade sur le sentier. Eh bien, à minuit et demi, des jeunes du village sont venus écouter du rap à côté de ma tente, ont vu ma tente et ont décidé de rentrer dans ma tente pour se marrer, parce qu'ils ne m'avaient pas vue ni entendue, donc là j'ai cru que j'allais mourir. Et j'ai dit, non, mais je suis là! Et là, ils ont dit, oh, pardon, madame! Et après, ils ont fait 2-3 blagues sur le viol. Si on allait dans sa tente quand même, des trucs comme ça. Donc, j'ai eu très peur. Et après, ils sont partis. Et je me suis dit, bon, c'est possible qu'il y en ait un qui revienne tout seul. Tu vois, ce genre de truc. Mais j'étais tellement fatiguée. Je suis juste restée là. Et il ne s'est rien passé. C'était juste des jeunes qui écoutaient du rap, tu vois. Mais c'était horrible. Donc, règle numéro 1, être invisible. Je maintiens. C'est sympa les couchers de soleil sur la plage, mais non.
Ok. Eh bien, merci beaucoup, Marie. J'espère que tes conseils et ton expérience pourront encourager un max de personnes à se sentir libres de partir voyager seules.
Grave.
J'espère aussi que ça aura permis de détruire un petit peu quelques préjugés sur le journalisme militant, n'est-ce pas ? Et en tout cas, moi, ça me fait trop plaisir d'avoir partagé cette discussion avec toi.
En direct des Côtes d'Armor.
En direct des Côtes d'Armor avec vue sur la mer et les falaises qui plongent dans l'eau. C'est très beau.
Magnifique. Merci, Esther.
Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tutoconquérirlemonde@gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreons respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous.